C'est Noël. Pas tout à fait, on est le 23. Et Noël, il paraît que c'est dans la nuit, précisément du 24 au 25. En fait, on n'en sait rien du tout. Parce que si ça se trouve, Jésus, il est plutôt né environ en avril. Mais bon, ça, c'est pas le sujet du jour. L'essentiel, c'est qu'il soit né. En plus de ça, Noël, c'est pas une fête biblique. Donc, quelque part, je peux refermer mes affaires et m'en aller. Noël, c'est pas une fête biblique dans le sens où c'est pas une fête de l'Éternel. C'est pas une fête que l'Éternel a prescrite au peuple hébreu. Comme la fête des pains sans levain, la fête des épis, des moissons, la fête des tabernacles. Enfin, toutes ces fêtes-là, tous ces mots que vous entendez. Eh ben, Noël ne figure pas dans ces fêtes-là. D'ailleurs, Noël, en tant que fête de la nativité de Jésus-Christ, ça date de l'an 336. Donc, quand même 300 ans après la naissance de Jésus. Et c'était tout d'abord une fête romaine et même une fête païenne qui s'appelait Sol Invictus, de soleil invaincu. D'où la fête des Lumières, etc. Il y a quelque chose qui vient de là. En fait, c'est l'empereur romain Aurélien qui voulait unifier religieusement son empire, l'empire romain. Donc, il a stratégiquement inclus une fête chrétienne à la suite de toutes les autres. C'était purement une stratégie politique. Pourtant, Jésus est né, on est bien d'accord. Ça, c'est vrai. Mais une des conséquences, c'est que maintenant, plus de 2000 ans après, enfin environ, bientôt 2000 ans après, on fête toujours Noël, toujours dans la nuit du 24 au 25 décembre, comme si tous les événements qui relatent la nativité de Jésus avaient eu lieu à ce moment-là. Mais on commence à célébrer un bébé. Un bébé dans une crèche. Marie, Joseph, le bébé dans la crèche, le bœuf et l'âne gris, sur la paille sèche. C'est pas faux. C'est pas faux, mais si on réduit Jésus à un bébé, en fait, on perd la substance de la réalité de Noël, de la réalité de la vie de Jésus, de la venue de Jésus. Alors aujourd'hui, j'avais pas envie de prêcher sur le bébé dans la crèche. Et j'avais pas envie forcément de prêcher sur Marie, ou sur Joseph, ou sur Zacharie et Élisabeth, ou sur l'image ou les bergers. J'avais pas forcément envie de raconter tout ce qui s'est passé, que Jésus a failli ne pas naître à cause de tout ce qui s'est passé, ne serait-ce que toutes les femmes stériles qui se sont succédées pour que Jésus ne puisse pas naître. Heureusement, Dieu est intervenu par des miracles. J'aurais pu parler d'Hérode qui a massacré les innocents. Le massacre des innocents, c'est tous ces enfants de 0 à 2 ans qui ont été massacrés pour qu'au moins Jésus, qui était dans le lot de ces 0 à 2 ans, ne vive pas. J'aurais pu parler de toutes ces choses-là. Mais j'ai choisi ce matin de parler de Jésus. De Jésus dans son identité. Bien sûr, je vais pas pouvoir couvrir tout ce qui concerne son identité parce que sinon on sera encore là l'année prochaine, mais j'avais envie de prendre certains éléments et que en pensant à Noël, que en pensant à ce Jésus bébé dans la crèche, on puisse élargir notre compréhension et qu'on puisse voir. C'est comme si ce bébé était là et que prophétiquement on pouvait voir qu'est-ce qui va devenir, qui est-ce qu'il est exactement. Alors, je vous demande de faire cet effort, de voir plus loin que ce bébé dans la crèche. Et pour nourrir mon propos, je vais me baser sur Matthieu. Les plus perspicaces se rendront compte que ces temps, je fais un peu une fixation sur Matthieu, et entre autres sur le serment sur la montagne. Mais n'ayez crainte, c'est pas de ça que je vais vous parler, même si je vais quand même le mentionner. Donc Jésus, une fois adulte, quand il a commencé son ministère, si on part déjà dans Matthieu 4, il s'est mis à prêcher en Galilée. Donc il a déjà commencé à porter un nouvel enseignement et à prêcher la repentance et à prêcher le royaume de Dieu. Et ensuite, il a commencé à constituer une équipe. Il a appelé Simon, Pierre, André, Jacques, Jean. Et il prêchait, il parcourait la Galilée, et en prêchant, il faisait des guérisons. Il guérissait toutes sortes de maladies, toutes infirmités, et à tel point que sa réputation, elle gagna toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies parce qu'il les guérissait tous, même les épileptiques, même les paralysés. Et en plus de ça, il délivrait les démoniaques. Donc Jésus, il avait autorité sur le corps des gens, mais aussi sur leur esprit, puisqu'il pouvait chasser les démons. Et on arrive à Matthieu 5, c'est le sermon sur la montagne. Pendant le sermon sur la montagne, pendant 3 chapitres, Jésus, il enseigne. Jésus, il exhorte, il redresse, il expose, il corrige, il instruit, il montre la voie. Il a un ministère vraiment particulier. Il a un ministère d'autorité. Il touche le corps, il touche l'âme, il touche l'esprit. Et à un moment donné, et vous pouvez fermer les yeux pour peut-être mieux vous rendre compte de ce qui se passe, à un moment donné, Jésus descend de la montagne. Jésus descend de la montagne et il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent, « Quel genre d'homme est-ce ? Même les vents et la mer lui obéissent. » Quel genre d'homme est-ce ? Non seulement Jésus a autorité sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit, mais il a autorité sur les éléments. Il a autorité sur la pluie, sur le vent, sur l'orage. Qui est ce bébé dans la crèche ? Est-ce que c'est pas le Créateur qui a autorité sur sa création ? Un peu plus loin dans Matthieu, Jésus se révèle d'une autre manière. Et je vais vous lire le début du chapitre 12. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent, « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. » Il y a ici plus grand que le temple. Le temple, c'était le lieu de rencontre avec Dieu. Parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour rencontrer Dieu. Bien sûr, à des moments donnés, Dieu a mis son onction sur des prophètes et des gens qui ont parlé de la part de Dieu. Mais pour le commun des mortels, pour le peuple, pour rencontrer Dieu, il fallait aller au temple. D'abord, il y a eu le tabernacle. Et ensuite, il y a eu le temple. Le temple était à Jérusalem. C'est pour ça qu'il y avait des pèlerinages réguliers. Les Juifs venaient à Jérusalem pour adorer Dieu, parce que c'est là qu'on pouvait l'adorer, mais aussi pour recevoir le pardon des péchés, parce qu'il fallait des sacrifices. Et ces sacrifices, on ne pouvait pas les faire n'importe où. C'est pas n'importe qui pouvait les faire. Il fallait des prêtres qui soient consacrés. Il y avait plein de directives, si on peut dire ça comme ça, et c'était le lieu où Dieu se manifestait, où Dieu donnait ses prescriptions pour son peuple. Il n'y avait pas d'autre endroit. Et Jésus dit, il y a ici plus grand que le temple. Alors, qu'est-ce qui peut être plus grand que le lieu de la présence de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même? Jésus est en train de dire qu'il est Dieu. Il le dit d'une façon voilée, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Non seulement il est créateur, mais il est Dieu. Il est ce Dieu qui est venu pour pardonner les péchés. Il est ce Dieu qui se fait accessible aux hommes parce qu'il n'y a plus besoin d'aller au temple. Et c'est certainement pas pour rien si peu de temps après l'ascension de Jésus, quelques années après, le temple est tombé et qu'il n'a pas pu être reconstruit. C'est pas pour rien. C'est parce que ce n'est plus de cette manière-là qu'on s'approche de Dieu. Donc, Jésus est cet homme, pleinement homme, mais pleinement Dieu. Jésus est créateur. Jésus est Dieu. Alors, pour en revenir à Noël, je vais quand même en parler un petit peu. Je vais vous lire un passage dans Matthieu 2. Et c'est l'histoire des mages. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On ne sait pas exactement quand les mages sont arrivés vers Jésus, mais c'était pas durant la nuit du 24 au 25. Je crois que le Seigneur a aussi laissé le temps à Marie d'accoucher, de se remettre de ses émotions, d'apprendre à allaiter son enfant. Je crois pas que tout à coup, pendant la même nuit, tout le monde a débarqué pour faire la fête. Je crois pas que c'était comme ça. Les mages, ils ont été avertis certainement bien avant la naissance de Jésus pour qu'ils aient le temps de faire leur voyage. Ou alors Jésus avait déjà 1 ou 2 ans. Il était petit, sûrement qu'il ne parlait pas encore, mais peut-être bien qu'il n'était plus un petit bébé. Toujours est-il que ces hommes arrivent et ils lui offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, c'était ce qu'on donnait pour rendre hommage au roi. Jésus a été reconnu comme roi. L'encens, c'est ce qu'on utilisait pour rendre hommage aux divinités. Et à part le dieu du peuple hébreu, toutes les autres civilisations avaient plusieurs dieux. C'était des civilisations païennes polythéistes. Et ils avaient l'habitude, pour célébrer les divinités, de faire brûler de l'encens. Mais là, c'était nouveau, quelque part, d'avoir un seul Dieu. Il y avait le peuple hébreu qui avait son Dieu. Mais c'était le seul moyen qu'ils avaient, en fait, pour reconnaître cette divinité. C'est le moyen qu'ils connaissaient les divinités. Eh bien, on fait brûler de l'encens. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait pour Jésus. Ils l'ont reconnu comme une divinité. Mais certainement qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'il était le Dieu, l'unique, le seul, le véritable. Et la myrrhe. La myrrhe, c'est une résine qui vient d'un arbuste. C'est une résine odoriférante qui a de l'odeur. Et c'est ce qu'on utilisait pour embaumer les corps lorsqu'il y avait un décès. Mais c'est aussi ce qui a été mis dans le vin et ce qui a été tendu à Jésus quand il était en croix pour apaiser ses souffrances. Parce que s'il l'avait avalé, la substance qu'il y a dedans aurait un peu aidé à soulager ses douleurs physiques. Mais lui, il a refusé. On lit ça dans Marc, en Marc 15, 23. Ce qui fait que les mages, quand ils ont amené l'or, l'encens et la myrrhe, ils l'ont déjà reconnu comme roi, comme Dieu, mais aussi comme sauveur. Bien sûr que certainement que pour eux, ça c'était inconscient. Ils comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ils en avaient pas la pleine révélation. Mais ils étaient déjà en train d'annoncer l'œuvre de la croix. Donc à peine né, Jésus a déjà reçu son identité. Il a été reconnu parmi les hommes comme quelqu'un de différent. Et si je retourne à mon texte avec les disciples dans leur bateau, leur tempête et leur galère. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Jésus-Christ, Dieu roi, est donc descendu du ciel pour nous rejoindre ici-bas. Dieu est venu dans notre barque. Dieu s'est abaissé pour nous rejoindre, nous les hommes, nous les êtres humains. Dans Philippiens 2, 6, il est dit, « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Ce Dieu roi, créateur, s'est fait homme. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Il s'est tellement abaissé qu'il a voulu connaître la vie intra-utérine. Il a accepté de naître comme un bébé, d'être dépendant d'autrui, d'être vulnérable. C'est ça notre Dieu. Et un jour, il y a un imam qui parlait, qui était dans des débats, qui parlait de différentes religions. Et c'est pas qu'il était opposé, c'était un débat constructif. Mais à un moment donné, il a dit « Ce que je ne peux pas concevoir dans la foi chrétienne, c'est l'idée d'un Dieu qui va au WC. » Qui va au WC. Et si vous pensez à Jésus dans sa crèche, quand il était petit, emmailloté de l'ange, eh bien je peux vous dire que ces langes, il a fallu les changer. Et il a fallu les changer plus d'une fois. Jésus, il s'est abaissé pour prendre notre condition humaine jusqu'au plus profond de notre humanité. Et quand je parle qu'il nous a rejoints au plus profond de notre humanité, c'est pas seulement au niveau des besoins du corps, comme manger, boire, éliminer, dormir. C'est bien plus que ça. Il est aussi venu nous rejoindre dans nos problèmes. Je parle de ces lieux cachés, ces lieux douloureux, ces lieux honteux qui nous pourrissent la vie, qui nous tiennent éloignés de la paix et de la joie. Il s'est tellement abaissé qu'il allait jusque-là, dans tout ce qu'on cache, qu'on se cache les uns aux autres, mais aussi ces choses qu'on se cache à soi-même. Il est venu nous rejoindre là, pas pour casser, pas pour juger, mais pour guérir, pour purifier, pour relever, pour restaurer, pour pardonner. Jésus est venu nous rejoindre dans nos tempêtes. Vendredi passé, il y a 2 jours, j'ai eu une journée de travail où c'était un peu pénible. Disons qu'il y avait une accumulation de situations pénibles. À tel point que ça m'a fait saturer. J'utilise des termes, voilà. Mais j'étais irritée. C'est pas faute de m'être préparée le matin. Tous les matins avant de partir au travail, je prie, je suis dans la parole, je communie avec mon Dieu. J'ai des bonnes intentions. Mais voilà. Il y a quelques mots qui n'auraient pas dû franchir la barrière de mes lèvres. Il y a des soupirs qui n'auraient pas dû avoir lieu. Il y a des regards qui en disaient long. Et ça, c'était pas la gloire de Dieu. En fait, je pourrais me dire, mais c'était des peccadilles. C'était des petites choses. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas cogné, même que j'en avais envie, mais je l'ai pas fait. J'ai pas fait ces gros péchés comme, voilà. Et quand je faisais le bilan de ma journée en rentrant chez moi, parce que j'étais pas très fière, j'étais même fâchée contre moi, je me disais, mais Seigneur, Jésus, toi qui es Dieu, toi qui es rempli de magnificence, de splendeur, de majesté, à cause d'un seul de mes soupirs, parce que c'était pas juste un soupir, mais il était bien senti envers une ou plusieurs personnes. Donc, juste à cause de ça, t'as dû quitter la gloire de ton ciel pour venir me rejoindre, pour me guérir. Chaque fois que dans mon cœur j'ai du mépris pour une personne, même si ça sort pas par des paroles, je te fais quitter ta gloire pour venir me rejoindre dans ma galère, pour que tu me pardonnes, pour que tu me sauves, parce que je suis pas capable de faire le bien que je veux et que je fais le mal que je ne veux pas. Et ça, c'est tous les jours. Parfois, c'est même dans les rêves, c'est 24 sur 24. Notre nature de péché, elle est constante, elle nous colle à la peau et ça va être comme ça jusqu'à ce que Jésus vienne nous rechercher. Mais Jésus est descendu même pour ça. Alors, je vais retourner quand même un autre texte de la Nativité. Et là, c'est dans Luc. Et c'est l'histoire des bergers, dans Luc 2, 8 à 14. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Les anges, en s'adressant aux bergers, leur a dit « Ce bébé dans la crèche, c'est le Sauveur. » Non seulement il est roi, non seulement il est Dieu, non seulement il est Créateur, non seulement il est Seigneur, mais il est Sauveur. Il est venu nous apporter la paix, non l'épée. Il est venu nous apporter tellement d'amour que ça nous permet de nous aimer et donc d'être en paix les uns avec les autres. Mais il est aussi venu nous donner cette paix intérieure pour qu'on puisse être bien avec soi-même. Jésus est venu transformer nos vies. Il est venu nous restaurer. Les disciples sont toujours dans leur barque et la tempête fait rage. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Souvent, la tempête fait rage dans nos vies. Et parfois, Jésus est en train de dormir. Moi, la question que je me pose, pourquoi est-ce que les disciples ont attendu si longtemps pour réveiller Jésus ? Ils ont essayé avec leur propre force. Ils se sont dit qu'ils allaient maîtriser le bateau. Mais maîtriser les éléments, ils savaient bien qu'ils n'y arriveraient pas. Alors pourquoi ils ont attendu que cette barque, elle se remplisse de flotte, qu'ils disent cette fois on va mourir, pour dire « Jésus, tu veux bien te réveiller ?» Et pourquoi ils n'ont pas agi tout de suite ? Pourquoi est-ce qu'on attend si longtemps à faire appel à Jésus quand on a besoin de lui ? Pourquoi est-ce qu'on patauge dans nos problèmes, dans nos galères ? Plutôt que de lui demander son aide, plutôt que nous confier en lui, plutôt que le laisser venir nous transformer, nous guérir, nous consoler, nous restaurer. Jésus ne s'impose pas. Et moi, je crois que c'est pour ça qu'il dormait. Jésus nous laisse le choix. Il nous laisse le choix de faire appel à lui dans nos tempêtes, ou pas. Il nous laisse le choix d'accepter la vie éternelle, ou pas. Il nous laisse le choix que nous lui donnions notre vie, ou pas. Il est ce Dieu, roi, sauveur, serviteur. Jésus est venu nous servir. Il a quitté la gloire pour venir nous servir. C'est nous qui décidons. Est-ce que c'est pas un peu fou? Par rapport au roi serviteur, à peu près 600 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe en a parlé. Et je vous lis au chapitre 42. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a déposé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui le peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, Je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel. Voilà quel est mon nom. Et je ne donnerai pas gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Dieu s'est fait serviteur. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Quand vous allez retourner dans vos familles, quand vous allez célébrer Noël, que vous allez chanter ces chansons à Jésus dans la crèche, ayez tout ça. Ayez tout ça devant vous. Rappelez-vous qui est ce genre d'homme. Le but, c'est que ça nourrisse notre adoration. Le but, c'est que ça nous encourage à faire appel à lui, à le recevoir, à nous laisser transformer, à désirer le connaître davantage, à désirer faire fructifier notre intimité avec lui. Peut-être que ce matin, dans la salle, il y a quelqu'un qui s'est jamais laissé vraiment toucher par le Seigneur. Peut-être qu'il y a des personnes qui le connaissent pour en avoir entendu parler, mais qui ont jamais fait la démarche de dire « Seigneur Jésus, j'aimerais te donner ma vie. J'aimerais que tu me donnes la tienne. J'aimerais qu'on fasse un échange. J'aimerais que tu viennes me restaurer. J'aimerais que tu viennes me transformer. » S'il y a une personne qui est dans ce cas-là, une personne qui a besoin d'être changée par le Seigneur Jésus, de lui appartenir, d'entrer dans sa famille, ben je vous propose de lever votre main. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie parce que pour chacun de nous, tu as payé le prix fort. Tu as quitté ta gloire pour venir nous rencontrer. Tu t'es abaissé, tu t'es humilié. Tu t'es offert en sacrifice. Tu es ressuscité. Et actuellement, tu es souverainement élevé au-dessus de toute puissance, de tout nom, de toute dignité, de toute divinité, de tout trône, de toute puissance. Tu es assis à la droite du Père, et c'est de là que tu viendras nous chercher, mais que tu viendras juger aussi les vivants et les morts. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es tellement glorieux et pourtant, tu n'as pas hésité à venir à notre secours. Tu n'as pas hésité à venir nous rejoindre. Et aujourd'hui, je te demande par ton Saint-Esprit de nous donner ces révélations. Ce que l'on sait avec notre tête, je te demande que ça vienne dans notre cœur, dans notre entendement, au plus profond de notre être. Je te demande que ça devienne une nourriture pour notre âme. Je te demande de renouveler notre intelligence pour qu'on puisse le capter en profondeur, en vérité, en esprit. Et que ça nous exhorte à te servir toujours mieux, à développer notre vie de prière, notre intercession, notre adoration. Que ça nous aide aussi à nous aimer les uns les autres, à nous encourager, à nous supporter, à nous porter, à nous consoler, à nous enseigner, à nous accompagner. Que ça nous enseigne aussi à ouvrir notre porte à l'étranger ou à celui qui ne te connaît pas encore. Et que chacun d'entre nous, tu nous rendes conscients qu'on a besoin de toi. Que même quand on croit qu'on a tout compris, même quand on sait qu'on t'est consacré, notre nature de péché est toujours là et on a toujours besoin de toi. Garde-nous cachés dans ton humilité, mais rends-nous capables de recevoir ta grâce. Il n'y a pas de péché trop grand pour que tu le couvres de ta grâce. Il n'y a pas de péché trop grand. Jésus, tu n'es pas venu pour rien. Que tu ne sois pas venu pour rien. Je te demande que chacun de nous, on soit capable de te lâcher, de t'abandonner nos péchés, quels qu'ils soient. Merci Jésus, merci Père, merci Saint-Esprit. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, Jésus-Christ, et ce roi de gloire. Amen. J'avais demandé au groupe de louanges de pouvoir chanter le chant Minuit chrétien. J'avais envie qu'on chante quand même des chants de Noël. Pas être trop carré non plus. Mais je me suis dit que ce chant-là, avec ces paroles-là, prendra une autre ampleur, une autre puissance quand on s'est rappelé exactement qui est ce Jésus qui est venu dans la crèche.